On va déguster tous les dimanches sur France Inter à partir de 11h.
On y va pour les deux plats du jour.
Je peux goûter comme ça?
Oui, 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 bien sûr.
The menu, please.
Oh, tu goûtes ça.
La menthe, c'est la grande herbe du Liban, du Maroc.
Même en plein été, où tout est sec partout, votre plate-bande de menthe, un petit peu ombragée, qui est toujours un petit peu arrosée, vous ressourcez dans la fraîcheur et dans les parfums.
On part très très loin avec la théière et on fait ce geste très élégant et très haut pour aérer le thé.
Menthe cacao, menthe basilic, menthe ananas.
La recette de la taboulée de Saïd Dichaya.
Il faut bien 2 à 3 bottes de persil, 3 ou 4 tomates, ça serait pas mal pour un début, du citron frais, 2-3 feuilles de menthe, un oignon rose, de l'huile d'olive et voilà, on est prêt à déguster.
Un taboulé à la levantine. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Troisième volet de notre série d'été, la menthe, pour une émission rafraîchissante. Un mojito, une salade iranienne, un thé à la menthe, une infusion glacée. Ouh oui, ça y est, ça résonne déjà sur le plateau dont on va déguster, les glaçons sont prêts. Voici quelques-uns des plaisirs mentholés qu'on va partager ensemble avec nos invités. Tout d'abord, notre poète du potager, on est très content de le retrouver, un grand habitué dont on va déguster, c'est Xavier Mathias, bonjour.
Bonjour.
Ça va Xavier?
Bah ouais, très bien, surtout là avec un parfum comme ça, quand il fait chaud à ce point-là, c'est parfait.
Vous nous avez apporté une forêt de menthe, on peut le dire? Ça pousse de tous les côtés. Sur le plateau, je vous vois à peine. D'ailleurs, vous êtes caché derrière des grandes tiges vertes. C'est absolument impressionnant. Maraîcher, expert en permaculture, formateur à l'école du Breuil et à Ferme d'Avenir notamment. Mais vous avez de multiples casquettes et vous allez nous raconter les coquetteries et les mystères botaniques de la menthe. On en est ravis. Claire Poirier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes aux commandes avec votre mari Adrien de la menthe verte. Ça ne s'invente pas, même si la menthe, c'est L'amante en un seul mot. On a compris le jeu de mots, évidemment. Un petit paradis breton. Où ça exactement?
À Sixte-sur-Ave, dans le pays de Redon.
C'est ça, on est en Ille-et-Vilaine, hein, pas très loin de Rennes d'ailleurs. Et c'est une exploitation dédiée aux plantes aromatiques. Vous en faites des infusions gastronomiques. Vous êtes également à un café-librairie, la table de la menthe verte avec des brunchs, des goûters bio, des balades botaniques et tout ça, ça se passe aussi pendant l'été. Vous allez nous apprendre plein de trucs et de recettes vraiment super, très estivales à faire autour de la menthe. Dans les fauteuils des chroniqueurs, des chroniqueuses, et j'en suis très heureux, c'est Elvira Masson et Déborah Dupont. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour à tous.
Elvira.
Oui. La menthe à toutes les sauces, ça vous va comme programme?
Ah, la menthe à toutes les sauces. Il y a d'ailleurs une petite sauce à la menthe ciselée qui me fait de l'œil sur ma gauche avec une petite salade qui me fait bien envie. Déborah, ça va?
Mais oui, ça va.
Avec votre t-shirt mentalo?
Ah, je me suis assortie au programme du jour.
Ah là, c'est vraiment l'été, ouais. Et qu'est-ce qu'il y a dans nos assiettes?
Dans nos assiettes, on va voir si la menthe supporte la cuisson.
Très bonne question. On va voir ça à travers une petite surprise sucrée. Cheesecake?
Un petit cheesecake, oui.
Très bien. Camille Blanès réalise l'émission avec Pierre Faucillon. Nadia Chougui pour la préparation de l'émission. Djoubaka pour la programmation musicale. Toutes les recettes de l'été, nos coups de cœur, le podcast de l'émission et notamment le podcast de nos émissions d'été. Tout ça, ça se passe sur franceinter.fr à la page On va déguster.
Sur France Inter, avec François-Régis Gaudry, on va déguster.
Vous l'entendez, le bruit du thé à la menthe, ça c'est pour tout à l'heure, on va vous apprendre à faire un vrai thé à la menthe. Mais juste avant d'évoquer la menthe, est-ce que je vous sers un petit café?
Avec plaisir, j'ai besoin de me réveiller un moment. Justement, je suis un peu endormie. Donc.
Attention, pour faire monter le suspense, un café comme vous n'en avez jamais bu à Paris. Direction un minuscule coffee shop situé dans le 9e arrondissement de Paris, rue Blanche, exactement au numéro 7, à l'ombre de l'église de la Trinité. Un coffee shop qui s'appelle Hanoi Corner, ce qui vous donne une petite indication géographique sur le style de café. Nam et Lin, un jeune couple franco-vietnamien, vous propose, attention, un authentique café à la vietnamienne. Car oui, le Vietnam est une terre de café avec d'excellentes plantations et un art de la dégustation. Je vous invite à choisir plutôt le café de spécialité contre 3,50€. Alors certes, c'est beaucoup plus cher que le petit noir classique, mais ça n'a pas le goût de pneus brûlés. Donc c'est plutôt une expérience tout à fait intéressante. On est dans un truc sensoriel vraiment passionnant. On vous apporte à table, écoutez bien, une tasse individuelle surmontée d'un filtre en laiton. Le patron verse de l'eau bouillante sur un robusta issu d'une plantation de la région du Dalat Il est délicatement torréfié. Dalat, c'est un plateau qui est au cœur du Vietnam. Et en bouche, ce café, après extraction, se distingue par une belle rondeur, des notes acidulées de petits fruits rouges. C'est vraiment une expérience que j'ai adorée. La maison propose aussi, et ça je pense à vous Elvira, une version estivale qui consiste, écoutez bien, à filtrer ce café vietnamien au-dessus d'un grand verre d'eau de coco glacée.
Ah ouais.
Une eau de coco naturelle. Je peux vous assurer que la rondeur acidulée du café vietnamien qui se balade dans l'eau de coco glacée tout à fait naturelle, qui n'est pas sucrée, sans sucre ajouté, mais qui a un sucre naturel, ça s'appelle le Moon Coco.
C'est pour
et
moi.
Je peux vous assurer que c'est une délicieuse boisson désaltérante. Et pour ceux qui ont une petite faim chez Hanoi Corner, il y a également un excellent boboon. Et moi, j'ai goûté le Boon Tip Duong, qui est en fait le cousin du boboon, mais la seule différence, c'est que la viande de bœuf est remplacée par de la viande de porc. Un bol délicieux rempli de vermicelle souple, avec quand même une belle texture sous la dent, des crudités croquantes, il y a même des lamelles de pommes, une sauce au nyok mam vraiment très aromatique, beaucoup de coriandre,
et de la menthe,
de basilic taillé, de la
menthe.
Évidemment, pas de boboon, pas de bon boboon, sans menthe bien sûr. 8,90€ le niveau d'un ticket restaurant pour un boboon en plus copieux et généreux, et tout ça, ça se passe chez Hanoi Corner, le coffee shop de Nam et Lin, 7 rue Blanche, Paris 9e, ouvert du lundi au samedi jusqu'à 18h. Alors, il vous reste une petite semaine pour en profiter. Ils ont leur congé au mois d'août.
Moi, j'y vais demain.
Voilà, on peut y aller demain ensemble. Sinon, vous y filez, évidemment. Début septembre, la menthe nous aimante sur le plateau dont on va déguster. On vous raconte ça juste après Art Mango avec le titre Grand le ciel sur France Inter.
Croyez-moi, il est grand, grand le ciel, assez grand. Pour être vite noir de monde, à chacun son bouquin. On joue diable à la ronde, ou bien rien, ou bien rien. Du bleu des satellites, des nuits météorites. Croyez-moi, il est grand, grand le ciel, assez grand. Pour que chacun dans son coin plonge au fond du zodiaque. Il trouve un strapontin, un fauteuil, un hamac. Pour regarder passer, passer les gens passer. Entre sol et soleil, il y a le ciel, il y a le ciel. Et des vents qui s'emportent, des tas de lettres mortes. Entre sol et soleil, il y a le ciel, il y a le ciel. Et midi à sa porte. Bien minuit, qu'importe. Croyez-moi, il est grand, grand le ciel, assez grand. Pour cueillir en son sein le bonheur, la misère. Des avions et des saints, Apollo, des prières. Les paroles d'hirondelles et celles des aigles, celles. Croyez-moi, il est grand, grand le ciel, assez grand. Décider tout seul s'il sera rouge ou gris. Tant pis pour ceux qui veulent en faire mauvais la vie. Moi je crois qu'il est changeant. Combien des sentiments. Entre sol et soleil, y a le ciel, y a le ciel. Et des vents qui s'emportent, des tas de lettres mortes. Entre sol et soleil, y a le ciel, y a le ciel. Et midi à sa porte, ou bien minuit, qu'importe. Croyez-moi, il est grand, grand le ciel, assez grand. Pour noyer des rivières de prières, grand Seigneur. Dans la couleur de l'air, y a les premières roses. Des big bangs de l'amour, lui marche sur du velours. Croyez-moi, il est grand dans le ciel, assez grand.
Plaisir mentholé sur le plateau dont on va déguster. Vous êtes bien sur France Inter et c'est l'été.
Hemingway affectionnait beaucoup les mojitos. Donc, elle a tiré son nom botanique, justement, d'Hemingway, Hemingwayensis.
On va déguster semé à l'heure d'été.
Eh oui, c'est l'été, je pense que je ne suis pas le seul à associer la menthe au plus célèbre des cocktails. Les filles, tout le monde a envie d'un mojito ?
C'est sûr.
Mais alors, avec quelle feuille de menthe ? Qu'est-ce qu'on vient d'entendre ? La menthe mojito, c'est la première fois que j'entendais le nom de cette variété, Xavier Mathias.
Oh oui, je pense qu'il n'y a pas plus de menthe mojito que de menthe neem.
Ça vient d'où, ces noms-là ?
Alors là, ça vient nous compliquer une situation qui est déjà bien compliquée. Donc, petite demande, arrêtons de nommer comme ça pour des raisons purement commerciales. Hein. Je trouve ça très bien que des gens veuillent acheter une menthe qui soit bonne pour le mojito, c'est une super idée. On n'est pas obligé de nommer de façon un petit peu farfelue, hein, à mon sens, comme ce que je viens d'entendre.
Même une menthe qui s'appelle Hollywood, non ?
Alors, j'avais vu ça. Voilà, après, on peut trouver un petit peu tout et n'importe quoi. Alors, la situation est déjà très embrouillée avec les menthes. Par pitié, n'en rajoutons pas.
On va tenter d'y voir plus clair, justement, dans la grande famille botanique des menthes, car c'est assez compliqué, mais c'est l'heure du mojito. Si on avait envie, comme ça, d'utiliser une feuille de menthe spontanément, on choisirait laquelle, Claire Poirier ?
La menthe verte,
voilà.
Sans aucun doute.
Une menthe verte tout à fait classique.
Fraîche, efficace, classique, avec ce goût vraiment associé à celui du mojito. Après, on peut tout essayer, hein. Ça marche très bien avec la menthe bergamote.
C'est ça.
Mais ce qui est entendu comme la menthe du mojito, c'est la menthe verte.
Très bien. Vous voulez ma recette du mojito ou pas ?
Avec plaisir, oui.
Moi, je le pratique hein, depuis quelques années.
On sait.
Ça vous dit ? Non, mais tout à fait raisonnablement, mais un bon mojito rafraîchissant. Dans un grand verre, on dépose 8 feuilles de menthe verte, effectivement, comme le disait Claire Poirier. Alors surtout, ce qu'il y a d'important, c'est qu'on ne déchire pas les feuilles de menthe pour bien garder les huiles essentielles et pour ne pas boucher la paille aussi avec des morceaux de menthe. Et alors, au-dessus de la menthe, ce qui est important, c'est que pour chaque grand verre, on ajoute un demi-citron vert coupé en 6. Donc un demi-citron vert coupé en 6 sur les 8 feuilles de menthe. Un trait de sucre de canne ou 2 cuillères à café de sucre en poudre. On écrase avec un pilon, mais surtout la menthe doit rester au fond du verre, sous le citron.
C'est des années de métier, ça.
Non, mais c'est assez important parce qu'il faut que cette menthe verte soit assez protégée, sinon elle devient amère, faut pas trop la piler. On ajoute de la glace pilée, justement, l'équivalent de 5 glaçons par verre, 4 centilitres de rhum, et on complète avec de l'eau gazeuse. On mélange légèrement à la cuillère et c'est prêt. Ma recette sur franceinter.fr. À la page, on va déguster, mais on peut aussi faire très sobre, avec, par exemple, une infusion glacée qui se faisait remarquer par ces bruits de glaçons.
Alors, je vous ai préparé pour l'émission.
Là, vous venez de verser carrément cette infusion dans votre verre avec des glaçons.
Exactement, une infusion à base de menthe. Alors, c'est une infusion de plantes sèches, puisque nous, on est producteurs, mais on fait essentiellement de la plante sèche. Et donc, c'est une association qui s'appelle la fraîcheur avec de la marjolaine.
Oui.
Puisque la menthe et la marjolaine, on est dans les mêmes esprits frais, ça marche très bien. Mm-hmm. Comment est-ce qu'on fait une infusion glacée ?
Car il y a quelques secrets à maîtriser. Moi, j'ai appris ça en préparant l'émission, j'étais sidéré.
Alors, dans les petits trucs qui fonctionnent bien, on peut partir dans la maison, au jardin, de la menthe fraîche ou on peut partir de la plante sèche, c'est la même chose.
D'accord.
L'idée, c'est qu'on va infuser chaud. On infuse toujours la menthe très chaud. Pour avoir le côté franc et fort de la menthe, il faut infuser chaud.
Très bien.
Donc, on va infuser à 95 degrés pendant 5-6 minutes les feuilles de menthe.
Il en faut combien pour quelle quantité d'eau ?
Alors, pour l'infusion glacée, on charge un peu plus que pour une infusion chaude parce qu'on va mettre de la glace, on va diluer. Donc, on va être à 4 grammes de plantes sèches au litre à peu près, 30
D'accord.
grammes en frais.
Ce qui correspondrait pour un litre de boisson à combien de feuilles de menthe à peu près à la maison ?
On va dire 5-6 branches de menthe.
En laissant les tiges ?
Alors on va plutôt garder que la feuille, mais
D'accord.
bon après, chacun... Disons que dans la tige ne va pas apporter de problème, c'est juste que le goût sera dans la feuille.
Mm-hmm.
Donc on va faire cette infusion bien forte, et mon conseil c'est de le mettre dans des bouteilles. Donc là j'ai une bouteille type bouteille de jus de pomme ou bouteille de lait.
En verre ?
Voilà, bouteille en verre, capsulée. Et en fait, en capsulant, on va limiter l'oxydation, parce que la menthe, c'est une plante qui s'oxyde. Et donc, on va garder vraiment à la fois la fraîcheur du goût, le côté, voilà, quand on met le nez au-dessus de l'infusion glacée, vous sentez, il y a ce côté piquant, frais, qui est conservé. Et en plus, on ne va pas avoir un liquide ambré.
On embouteille et on capsule à chaud.
Voilà, exactement. On va laisser refroidir tranquillement, on met au frigo et on ouvre au moment du service. Et une fois qu'on ouvre, ça va se conserver 24 heures à peu près. Mais c'est pas ouvert, ça peut se garder sans problème une semaine.
Non, donc c'est aux plantes, pas de sucre ajouté, rien du tout.
Aux plantes, pas de sucre. Par contre, on peut rajouter un petit trait de sirop pour les enfants à la sortie si on veut une boisson qui soit un peu plus sucrée.
C'est vraiment délicieux. Très bon. Qu'est-ce que vous en pensez, Xavier? Sans sucre, goût de la menthe?
Moi, je trouve ça parfait. Surtout, encore une fois, avec les températures qu'on a en ce moment, je trouve que la menthe, c'est vraiment la boisson, la boisson d'été. Et puis là, ce que j'aime beaucoup, c'est la couleur. Moi, je suis pas doué et assez souvent, les menthes, ça fait un truc qui est vraiment pas très rajoutant, hein, quand même. Hein. Une espèce de marronasse.
Ça vire sur le marronasse, ouais.
Et là, on est sur l'ambre, hein. C'est quand même vraiment beaucoup. On est sur du doré, c'est beaucoup plus joli hein, que ce que j'obtiens, moi.
Dans un instant, Claire Poirier nous apprend également à faire un sirop de menthe. Alors, on parle pas évidemment du sirop industriel aux couleurs fluo. On parle d'un vrai sirop de menthe fait avec une menthe du jardin. Une menthe maison, un sirop de menthe maison, et vous allez voir que c'est proprement délicieux. On va révéler un secret à nos auditeurs, cher Xavier, qui fréquentait régulièrement le plateau dont on va déguster. Il y a quelques mois, vous m'avez glissé à l'oreille l'idée d'une émission sur la menthe. Tu m'as dit, François Régis, fais une émission sur la menthe, tu verras, c'est passionnant. Mais botaniquement, c'est un sacré bordel.
Alors, je me souviens pas avoir été grossier comme ça, mais je suis pas étonné.
Non, tu m'as dit foutoir.
Ah non, je suis pas étonné. Oui, non, c'est vraiment très compliqué, cette histoire de menthe. En fait, on s'aperçoit que le vivant aime pas trop être classé.
Oui.
Et les menthes, surtout pas. Ce qu'on peut dire, globalement, on est sur espèce sous espèce variété. Il y en a au moins 1200. Il y a un abbé, c'est au 9e siècle déjà, qui avait remarqué qu'il existe autant de menthes qu'il y a de poissons dans la mer Rouge. Voilà, il écrit ça déjà il y a très très longtemps. Donc globalement, pour faire simple, moi ce que j'aime beaucoup, c'est les fausses menthes. Déjà tout ce qu'on appelle menthes, mais qui botaniquement n'en sont pas.
Qui complexifie encore le problème.
Ah oui, bah, c'est beaucoup plus drôle comme ça. Donc on a le calamint, la menthe des montagnes, on a la menthe pileuse, on a plein de la menthe terre. Il y en a plein comme ça.
Calamint, j'en ai à mes côtés. Moi qui suis corse, ça parlera, à moitié par ma mère, ça parlera effectivement aux Corses qui cuisinent beaucoup dans la ratatouille, la nepita.
Ouais.
Et effectivement, vous la frottez, il y a une odeur mentholée, mais ce n'est pas botaniquement une menthe. On revient sur les vraies menthes, déjà on peut dire, Xavier Mathias, que la grande famille des menthes vertes, c'est menta en fait. Hein.
Voilà, c'est ça. Après.
Et c'est les lamiacées.
Voilà, et après, pour simplifier, on va dire qu'on a deux types de menthe essentielles. On a la menthe verte, ou menthe douce, qui serait déjà une hybride entre deux espèces sauvages. Mm-hmm. Et puis après, on a la menthe poivrée, ou piperita, qui sont les menthes plus glaciales. Alors, comment identifier à peu près les deux? Alors, les menthes piperita sont plutôt utilisées, elles ont un côté un peu camphre glacé, qui fait qu'on les utilise plutôt pour les parfums de sirop, les distillations, etc., etc.
Forte concentration en menthol. On parle de la famille des menthes poivrées, et en latin, ça donne effectivement piperita.
Piperita. C'est ça.
Piper, poivre, ouais. D'ailleurs, en latin.
Voilà, c'est ça. Et puis après, on a les spicata, qui sont les menthes plus douces. D'ailleurs, à la feuille, ça se voit. Mm. C'est-à-dire qu'on a une feuille qui est plus gaufrée, qui est plus timide, presque à regarder, alors que les piperita, elles ont des feuilles quand même qui sont presque luisantes. La tige est beaucoup plus, est pourpre en général, très soutenue, tige carrée. Et on s'aperçoit souvent que le limbe des feuilles, il a, vous savez, le bord des feuilles, un petit liseré. En fait, quand il y a un petit liseré, dites-vous bien, bon, ça va taper un peu. On est sur une piperita. Voilà, ça va.
Piperita, ça tape.
Ouais.
Spicata et menthe verte, ça tape pas.
Ouais, voilà, c'est beaucoup plus doux. Voilà,
il y a deux familles, en fait, en gros.
Pour être aromatiquement. Les menthes vertes et les menthes douces, hein, Claire Poirier, c'est ça. Donc, c'est vraiment les spicata. Là, le menthol est plutôt doux. Et on va dire que la feuille que l'on a. Et en général un peu gaufré, parfois velu d'ailleurs.
Un peu plus épaisse, oui.
Alors que les menthes poivrées, ce sont les piperita, et là en l'occurrence, on a affaire à des menthes plus luisantes, peut-être plus fibreuses aussi.
Exactement, et après ce qui est important, et d'ailleurs en général dans les débats de botanistes, ça se résout au sensoriel et pas au factuel, parce que de toute façon, une même menthe, en fonction de son exposition, même de la période où on va la récolter, la feuille n'aura pas la même forme, donc on va toujours avoir des débats sur l'identification au jugé. Par contre, au toucher et au ressenti, on va avoir un moyen d'arbitrer. Et donc, choisir une menthe, c'est avant tout choisir une menthe qui nous plaît. Et à ce moment-là, on va être plus sur des notes de tête, c'est-à-dire des choses très volatiles qui montent fort sur la menthe poivrée, et plus sur des notes de cœur avec la menthe verte, avec des choses qui font moins un effet waouh, mais qui vont durer et qui vont avoir une belle présence en bouche.
De ce que je comprends, à l'amande verte, qui est l'exploitation bretonne que vous dirigez avec votre mari Adrien, vous travaillez plutôt des menthes vertes ?
Nous, on travaille trois menthes. On travaille la menthe poivrée, la menthe verte et la menthe bergamote.
C'est ça. Et la menthe bergamote, on la range dans quelle famille ?
Alors, il y a des débats de botanistes là-dessus aussi. Oui. On dirait, enfin, moi, j'arbitrerais, en tout cas pour la variété qui est la nôtre, pour un croisement Piperita, donc une sous-espèce Piperita citrata. Puisqu'elle a des caractéristiques de menthe poivrée et des caractéristiques, enfin, clairement, on a des notes d'agrumes qui sont très présentes.
Ah voilà, j'allais vous demander pourquoi menthe bergamote, on a une petite idée, ça fait penser à l'agrume ?
Donc ça fait plus que penser
à
l'agrume.
Vous qui avez un odorat surdimensionné.
Transformé. D'ici, je ne la sens pas encore. Hein.
Transformé, on a vu ça.
Xavier Mathias, j'aimerais qu'il la sente aussi. Allez, petite expérience olfactive, c'est un peu frustrant pour nos auditeurs, évidemment.
Donc il faut frotter la feuille. On la voit.
Au premier nez, ça fait un peu lavande. Hein.
Oui, alors, ouais. Ça fait lavande.
Ouais. Et après,
moi, je dirais même qu'il y a une touche camphrée.
Oui. Voilà, on peut avoir des notes camphrées. En fait, c'est toujours des menthes qui sont assez complexes. Mais ce qu'on va retrouver, c'est une note d'agrumes. Et c'est surtout à l'infusion. Vous allez le voir parce qu'on va goûter le sirop.
Je vais en mettre dans mes placards, moi.
On a l'impression qu'on a un citron ou un jus de citron ou, une écorce d'agrumes qui a été ajoutée dans l'infusion. Et ça, c'est vraiment ce qu'on va retrouver. Mais une fois encore, quand on frotte la feuille, d'abord, on va avoir la note volatile. Donc, on va avoir le côté poivré, camphré, mentholé. Et ensuite, on va avoir plutôt les notes d'agrumes, plutôt les notes menthe.
La recette du sirop de menthe, justement, vous utilisez pour ce sirop plutôt de la menthe bergamote ou pas, Claire Poirier ?
Alors, c'est un sirop que vous pouvez faire avec n'importe quelle menthe de votre jardin et vous pouvez mélanger les menthes. Plus il y en a, mieux c'est, ce sera le plus intéressant. Moi, j'ai un parti pris sur la menthe bergamote parce que j'adore ça, que je trouve que c'est très original. Et en général, quand
avec
on fait goûter
agrumées.
Le sirop de menthe bergamote, les gens ont du mal à identifier ça comme une menthe.
Et ben, c'est Déborah, justement, qui va jouer les cobayes, consentantes. Alors, allons-y pour la recette, Claire Poirier.
Alors, on fait une infusion très, très concentrée. C'est-à-dire que, en gros, on met des feuilles de menthe et on recouvre d'eau. Donc, en poids ou en brin, on va dire une quinzaine de brins pour 50 centilitres à minima.
Oui, ah oui quand même.
Oui, oui. Donc là, l'idée, c'est de faire vraiment un format ultra concentré parce que derrière, on va avoir le goût du sucre. Nous, on est en agriculture biologique, donc on ne travaille que le sucre blond de canne. Puisque c'est la seule, enfin en tout cas c'est la filière bio la plus simple à trouver. Donc le sucre de canne a lui-même un goût. Donc l'idée c'est d'aller sur une infusion qui soit très puissante pour vraiment que ce soit la menthe qui ressorte en premier. Donc on va faire une infusion qu'on va laisser infuser très longtemps. En fait on va la laisser même refroidir. Mm-hmm. Alors dans certains livres ils disent de laisser 12 heures, mais globalement personne n'a jamais la patience de le faire. Donc déjà si vous laissez une heure ou deux refroidir, ce sera pas mal.
Oui.
Donc cette infusion très puissante, vous allez en temps pour temps laisser le sucre fondre dedans, c'est-à-dire 50 centilitres, oui. 500 grammes. Quoi, en
d'accord.
Gros. Et donc, après, il y a deux écoles. Il y a l'école de ceux qui recuisent et l'école de ceux qui ne recuisent pas. Donc, globalement, l'école de ceux qui recuisent va perdre un peu de notes mentholées, mais va gagner en qualité de conservation. Et l'école de ceux qui ne recuisent pas va avoir plus un sirop qui est frais, qui est un peu piquant. On va mettre du jus de citron, histoire de le conserver, pour limiter les risques de fermentation.
D'accord. Donc, ça veut dire que lorsqu'on a fait notre sirop avec tant pourtant l'eau et le sucre, c'est bien ça ?
Exactement.
Et la menthe, donc ça correspond à peu près en menthe, vous l'avez dit, à une quinzaine de brins ?
À peu près, ouais.
Pour un demi-litre ?
Exactement.
Vous ne recuisez pas ?
Là, j'ai recuit dans celui-là, parce que comme c'est celui qui est servi au café, on l'ouvre et on le ferme.
Ça consiste
fois,
en quoi, la recuisson ? La recuite.
Ça veut dire on va le remonter un petit bouillon, une petite ébullition, on va laisser bouillir 2-3 minutes. Et puis, voilà, comme ça, on va stériliser, en fait.
Il se conservera combien de temps, dans ce cas-là ?
Ça se conserve très bien. Ça se conserve. Le recuit, moi, je le conserve plusieurs mois sans problème. Voilà.
Qu'est-ce que vous en pensez de ce sirop de menthe ?
Il est tout à fait étonnant. Mm-hmm. Parce qu'effectivement, il y a le côté agrume qui est dedans. Et je ne suis pas si certain qu'à l'aveugle, on soit capable de dire comme ça, c'est de la menthe. Effectivement, on a le côté agrume de la menthe qui ressort. C'est tout à fait étonnant. Voilà, c'est vraiment toujours l'idée de fraîcheur qui est là, quoi.
Ben là, la fraîcheur, vous devez en avoir un peu, Xavier, car vous êtes vraiment noyé dans une forêt de menthe. Il y a vos potées, vous êtes arrivé avec vos potées carrément.
Mais ouais.
Il y en a une qui m'intrigue, là. Il y en a une ou deux autour de vous, notamment celle-ci, qui a des feuilles très allongées qui ressembleraient presque à des feuilles d'estragon.
Ah oui, alors
c'est
en fait,
celle-là,
c'est une fausse menthe. Ouais. Oui, c'est le pycnanthe. C'est la menthe pileuse des montagnes. On l'appelle comme ça. Néanmoins, botaniquement, c'est un pycnanthémum. C'est pas une menthe. Mais tout à l'heure, vous parliez du maquis des menthes. Et il y a une menthe qui n'est ni une spicata, ni une suave violence, etc. J'ai... C'est la menthe corse.
Et, attendez, c'est la menthe lilliputienne.
Voilà, c'est ça.
Faites voir. Non, c'est pas de la menthe, ça. Et, on dirait un tapis.
On dirait un petit tapis de mousse.
On dirait de la mousse.
Là, on est quand même sur des feuilles qui font un millimètre de diamètre, à peu près. Deux millimètres, quelque chose comme ça. Quand on pose une phalange dessus, là, il y a une explosion aromatique stupéfiante.
Absolument spectaculaire.
On fait une sieste dessus, on fait des rêves voilà, tout à fait agités, je pense.
De fraîcheur et agité, ouais.
C'est ça. Bah, écoutez, voilà une très très bonne idée pour faire une sieste. Une sieste fraîche en Corse. Elle pousse où, cette menthe, en Corse?
À mon avis, alors, je ne l'ai jamais vue. Moi, j'ai eu la chance d'aller quelques fois en Corse. Je n'ai jamais vu de spot sauvage. Après, toutes les menthes, en général, sont des plantes plutôt de mi-ombre, qui vont apprécier la fraîcheur, ce qui est une bonne nouvelle pour plein de jardiniers ou plein de jardiniers amateurs urbains qui ont des, voilà, des terrasses pas très bien exposées, etc. Faites de la menthe, surtout, parce que dès qu'on a un petit coin d'ombre, elle va se plaire. Hein.
Elle va se plaire, elle
pousse très facilement. Ça ne veut pas dire du tout qu'il fait toujours moche dans le pays de Clerc et le pays de Redon. Hein.
Non, mais la menthe peut être même envahissante.
Moi, je la trouve encombrante, voilà, par moment. Ce qui est difficile, c'est de tenir une collection de menthe. C'est dans avoir plusieurs parce qu'elles ont tendance à se mélanger. Ouais. Et alors, ce qu'il faut, c'est un petit conseil aux jardiniers, vous la mettez dans des grands pots que vous enfouissez aux deux tiers pour pas qu'elles se baladent de trop. Et puis les pots, ils sont paillés et comme ça, ça fait pas lait dans le jardin, mais ça permet d'y tenir.
Il n'est pas l'heure de faire la sieste, mais plutôt de se mettre à table et de déguster une excellente salade aux saveurs exotiques. Elvira Masson.
On va déguster.
Pourquoi vous pouvez rire, Elvira ?
Non, je riais sous cap, je pouvais pas spécialement.
Riez sous cap.
Si Déborah va nous répondre à la question de savoir si la menthe supporte bien la cuisson, moi, mon sujet, c'est plutôt de savoir si la menthe s'accommode à toutes les sauces. Alors, dans la cuisine traditionnelle française, elle n'est pas très très présente, notamment dans le répertoire des sauces d'Éric Trochon.
Oui.
C'est vraiment ce petit ouvrage de référence chez Flammarion.
Absolument.
Qui répertorie les sauces classiques de la cuisine traditionnelle ou bourgeoise. La menthe n'occupe pas une place très importante, elle est présente notamment dans la sauce paloise.
Ah, je pensais que vous alliez l'oublier, celle-là.
Ah ben non.
Définition d'une... Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que c'est que la sauce paloise autour du plateau dont on va déguster ?
Absolument aucune, moi.
C'est une sauce béarnaise, mais avec, en lieu et place d'estragon, de la menthe.
Voilà, une sauce béarnaise, donc cette émulsion chaude, où l'estragon a été remplacé par la menthe.
Exactement. J'ai jamais goûté de sauce paloise, et c'est une sauce qui s'est quand même complètement perdue.
Oui,
je ne suis jamais tombée sur une sauce paloise de ma vie.
J'ai même parlé d'une sauce paloise à Yves Condebord, qui est quand même béarnais, parce que paloise, ça vient de Pau. Il n'avait pas entendu parler de la sauce paloise.
Il
n'a
pas appris au
CAP non plus. Il la connaissait, mais il ne connaissait pas ses origines précisément.
Elle est peu pratiquée. Mm-hmm. Dans le petit livre d'Éric Trochon, le répertoire des sauces, je suis tombée étonnamment sur la mint sauce, qui est la sauce anglaise par excellence.
Ça m'aurait étonné.
Celle qu'on, la fameuse sauce qu'on adore détester ou qu'on déteste adorer, codifiée par Escoffier, ce que j'ignorais, et qui accompagne traditionnellement le gigot d'agneau ou toute forme d'agneau rôti en Grande-Bretagne. Alors c'est très simple pour faire une mint sauce. C'est pour 20 centilitres de sauce, c'est 50 g de feuilles de menthe, 25 g de sucre cassonade, 15 centilitres de vinaigre blanc, 4 cuillères à soupe d'eau, sel, poivre. C'est une sauce que l'on prépare au mortier. On hache la menthe, on la pile au mortier avec le sucre, on ajoute le vinaigre blanc, une pincée de sel et poivre et détendre avec de l'eau. C'est pas sorcier.
La mint sauce.
Absolument. Ah, le France des sorciers.
Non,
c'est d'ailleurs 50 grammes de menthe, ça me paraît, mais astronomique, il faut un saladier pour
pouvoir le
piler.
Je pense que 50 grammes de menthe, ça fait quelques feuilles quand même.
Mortier, ouais. Ah oui,
hein,
un très gros mortier.
Oui, une bonne...
Vous connaissez la cuisine anglaise, il faut bien que ça soit un peu de cache-misère. Non oui. Apparemment, c'est le genre de phrase que dit François Régis à ce moment-là. En toute logique, il y a évidemment des recettes à base de sauce dans la cuisine indienne datant de la colonisation britannique, notamment le chutney menthe, Pudina chutney, qui est vraiment un condiment qui se prépare avec des feuilles de menthe fraîches. Alors ce qui est amusant, c'est de voir qu'à aucun moment dans toutes ces recettes, on ne précise le type de menthe qu'il faut, alors que j'imagine qu'il y a autant de recettes possibles qu'il y aurait de variétés de menthe, parce que la teneur de la recette n'a rien à voir. Enfin là, c'est aller beaucoup dans le détail.
On partirait d'une bonne menthe verte. Hein.
Ouais. Par défaut, en cuisine, c'est ça, on va plutôt servir d'une menthe verte, dans le doute.
Claire Poirier.
Dans le doute, mais après, la menthe poivrée, quand elle est utilisée en cru, c'est très intéressant. Ouais. C'est-à-dire que ce qui va mal supporter la cuisson, en fait, c'est le menthol, c'est pas la menthe. Et donc, quand on est en cru, on a intérêt à pouvoir utiliser la menthe poivrée parce qu'on va avoir le côté piquant et en plus on va avoir le côté épicé, parce que dans la menthe poivrée on a aussi des notes vanillées, des notes poivrées comme son nom l'indique, et c'est ça qui va être intéressant quand on utilise en cru. On va souvent trouver avec une acidité, donc vinaigre, citron, etc., parce que le risque c'est que ça s'oxyde, et donc le cru plus l'acidité, on va limiter les risques d'oxydation.
Donc menthe poivrée accrue, ça marche très bien dans
menthe
les sauces d'Elvira.
Menthe poivrée donc dans un chutney menthe, le Pudina chutney indien,
ouais.
qui est donc un mix de menthe fraîche, de feuilles de coriandre, de gingembre frais, d'ail frais et de yaourt.
Ça me fait envie.
Alors ça, on s'en sert avec tout, avec du tikka masala, etc.
Manger ça avec même du poulet grillé au barbecue.
Évidemment, n'importe quelle viande blanche, on peut même imaginer avec un poisson grillé, ça peut très bien fonctionner.
Bien sûr.
Et ce type de sauce, c'est intéressant parce qu'on le retrouve également du côté de la cuisine persane. Mais moi, il y a une recette qui m'a totalement séduite, qui n'a rien à voir avec cette sauce yaourt menthe, qui se trouve dans un livre dont je vous ai déjà parlé et dont l'auteur a depuis lors publié un autre livre, celui qui s'appelle Persiana.
Son auteur s'appelle Sabrina Gayour.
Sabrina Gayour.
Édition Hachette.
Hachette, exactement. Et c'est un assaisonnement pour salade que je trouve complètement génial. C'est une sauce à la menthe et à la fleur d'oranger. Vinaigrette, mais pour moi, ça va être ma nouvelle vinaigrette à tout. Hein. Une cuillère à café de miel liquide. Une cuillère et demie à café d'eau de fleur d'oranger.
Oui.
Le jus d'un citron. 4 cuillères à café d'huile d'olive. Sel de mer et poivre du moulin. Et là, elle y va un peu fort. Elle met 40 grammes de feuilles de menthe finement ciselées. Donc j'ai commencé par faire comme elle a dit, puis arrivé ici sur le plateau, j'ai enlevé la menthe que j'avais mise, et je l'ai mise à la poubelle et j'ai remplacé par quelques feuilles de menthe de Xavier Mathias. Goûtez cette sauce.
Eh bien je goûte en direct.
Goûtez-la en soi toute seule.
Non, mais ça promet d'être magique.
Déjà, je...
C'est juste très efficace.
Je soupçonne une petite touche agredouce entre le miel et le citron.
Bien sûr.
Oh, ouais. Oh. Et puis la note florale.
C'est épatant, non?
Ouais, la fleur d'oranger, la fraîcheur de la menthe. Ouais. Merveilleux.
Sachant que la fleur d'oranger comme l'eau de rose sont des produits qu'on utilise beaucoup dans la cuisine persane, mais cette recette-ci pourrait très bien effectivement être d'Afrique du Nord, mais voilà, non, c'est pas votre
sauce. Vous assaisonnez quel genre de salade avec cette sauce?
Alors, en l'occurrence, c'est la fin des radis, donc bon, voilà, radis, fenouil, concombre. Mais imaginez toutes les salades de l'été qu'on va pouvoir faire avec ça.
On a même le droit de mettre les cubes d'une bonne feta de brebis.
Mais bien sûr. Bon appétit. C'est bien ou pas?
C'est délicieux.
Il n'y a pas trop fleur d'oranger?
Ah non. C'est vraiment, c'est délicieux.
Vraiment adopté.
Je crois que je vais vous piquer votre recette.
Parfait.
En tout cas, il a piqué la sienne pour le moment.
Vous nous rappelez simplement les références du livre?
Dans le livre Persiana de Sabrina Gayour chez Hachette.
Et cette recette de vinaigrette, ou plutôt de citronnette à l'iranienne, avec de la fleur d'oranger et de la menthe, à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster. Merci beaucoup Elvira pour ce merveilleux conseil culinaire. Dans un instant, on retrouve Xavier Mathias et d'autres variétés de menthe. Claire Poirier qui va nous donner d'autres trucs, des stratégies, des astuces pour utiliser la menthe en cuisine. Vous tenez la menthe verte en Bretagne avec votre mari Adrien, qui est d'ailleurs une exploitation bio ouverte au public. Et puis on aura évidemment droit au cheesecake de Déborah Dupont, cheesecake mentholé. Et tout ça, c'est juste après de Bénin, Atmosphère Bénin International Musical. Bel été sur France Inter.
Oh, dream of me. Oh, dream of me.
Déguster les saveurs de l'été.
La menthe, au menu dont on va déguster, spécial été. Vous savez où est servi l'un des meilleurs thés à la menthe de Paris ou pas?
Non, à la Grande Mosquée. Je sais pas, à la Grande Mosquée, ouais.
Oui, peut-être. Mais celui de la maison de la radio est meilleur. Préparé à 10 mètres de notre studio, quand même. Hamid Mandarès, français d'origine marocaine, travaille à la cafétéria de Radio France depuis 24 ans. Et il a longtemps préparé le thé à la menthe pour ses amis de la cafétéria. Je suis allé lui demander de me préparer, rien que pour moi, ce fameux thé à la menthe. Vous voulez le résultat ?
Oui.
Oh oui. Je me présente, Mandarès Hamid, et je suis serveur-livreur à la cafétéria de l'Agora de Radio France. Et là, on va préparer le thé à la menthe.
Donc du thé noir de Chine, voilà. Un gros bouquet de menthe, voilà. Pas mal de sucre, voilà. Et vous avez également une cafetière remplie d'eau chaude.
Alors c'est parti, on va mettre du thé dans une tillère, une petite poignée.
Donc là c'est une poignée dans la paume de votre main. Exactement. Il n'y a pas une quantité précise.
Ça dépend par rapport à la tillère, c'est les grandes ou les petites.
D'accord.
Ou une cuillère à soupe ou deux. Voilà, là on va rincer le thé.
D'accord, donc là on rince le thé en fait, voilà, bien sûr. Dans une petite quantité d'eau bouillante.
Après on va préparer la menthe. La menthe, elle est lavée aussi. Il faut la laver avant et bien l'essuyer. Il ne faut pas qu'elle soit mouillée.
Vous y mettez aussi les tiges, les feuilles, tout ?
Ah oui, tout, bien sûr.
Et là, c'est quelle quantité à peu près ? Vous avez une grosse dizaine de tiges que vous coupez en trois.
Voilà, exactement, voilà.
Vous laissez les feuilles entières.
Voilà.
Et là, vous renouvelez l'opération, c'est-à-dire que vous avez à nouveau versé de l'eau bouillante sur votre thé. Et troisième rinçage du thé noir.
Voilà, exactement. Après, on va remplir la tille.
Alors le thé est rincé au fond de la théière et là vous avez versé la grande quantité d'eau, il y en a un bon demi-litre.
Voilà, la menthe on va la frotter un petit peu pour que ça sent.
Et là vous devez mettre le sucre en même temps que la menthe verte.
Pour que la menthe ne crame pas. Parce que si vous mettez la menthe par exemple, et vous cherchez le sucre, la menthe devient noire et le thé est amer après. C'est imbuvable. Si on a 10 verres dans la théière, on met 10 petits morceaux de sucre, petites.
Ça. On considère que c'est un morceau de sucre par petit verre. Le thé, la menthe fraîche et le sucre.
Après c'est bon hein. Alors je soulève la théière pour, voilà, comme ça, voilà, bien l'oxygéner, comme ça le thé il est bien après.
Donc là la théière, le bec verseur il est environ à 50 cm au-dessus du verre. Combien de fois vous renouvelez l'opération de reverser le contenu du verre dans la théière ?
4-5 fois.
Et ça oxygène le thé, ça développe son aromatique.
Voilà. Et maintenant je vais goûter un petit peu. Voilà, il est bien.
Est-ce que j'ai le droit de goûter moi ?
Mais bien sûr vous avez le droit, regarde.
C'est un délice.
Oui bien sûr.
Il n'y a aucune amertume, il y a vraiment la fraîcheur de la menthe, il y a le sucre qu'il faut. Et quand est-ce que vous allez continuer à le faire pour vos collègues à la maison de la radio ?
Ah bah, ça c'est parce que c'est la direction qui décide, c'est pas moi.
On va faire circuler une pétition.
Ouais.
On veut le retour du thé à la menthe d'Amid dans la maison de la radio.
D'accord, ok. Ça marche.
Le thé à la menthe préparé par Amine Mandarès, superbe, qui travaille à la cafétéria de Radio France. Vous le connaissiez, ce truc qui consiste à mettre en même temps dans la théière la menthe et le sucre pour éviter que la menthe noircisse, Déborah ?
Alors, j'avais appris, moi, en fait, à faire le thé à la menthe au Sénégal, il y a 20 ans. Mm-hmm. Et donc, effectivement, on met tout ensemble. C'est un thé qui est très corsé, qui se boit brûlant. D'ailleurs, on entend, pour pas se brûler, on Exactement. Est obligé de slurper presque.
C'est ça.
Et c'est une expérience assez, assez géniale, en fait, à faire.
Question de pas mal de nos auditeurs. Quelle variété de menthe pour le fameux thé à la menthe, Xavier Mathias.
La variété vraiment la plus commune, c'est celle qu'on appelle menthe marocaine, menthe nana.
N-A-N-A-H.
Voilà, il y a plein d'écritures différentes.
D'accord.
C'est une très jolie menthe avec un feuillage très doux. C'est pas du tout une piperita, ça se voit.
Elle a, donc c'est une spicata, c'est une menthe verte.
Voilà, et s'il y avait qu'une menthe qu'on devait avoir, si on a de la place pour avoir qu'une menthe chez soi, moi c'est vraiment celle-là que je recommanderais, que je trouve, elle est effectivement fabuleuse en infusion. Et quand on a cette menthe-là, immédiatement, bon, quand on a eu la chance de boire du thé à la menthe,
voilà.
Que ce soit au Maghreb ou en Afrique, on va reconnaître effectivement hein, cette menthe-là, ça ne faut aucun doute.
Donc la menthe marocaine dans un jardin, à la fois pour les infusions, pour éventuellement la cuisine, vous êtes de cet avis ou pas Claire Poirier ?
Oui, alors nous on ne l'a pas dans nos cultures, mais par contre dans le jardin botanique qui est à côté du café-librairie, Philippe Gromeyer avec qui j'ai construit ce jardin a ramené cette menthe nana de ses voyages et donc on l'a au jardin et c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on échange beaucoup parce que c'est une menthe qui évoque beaucoup de souvenirs.
C'est vrai.
Les gens en ont vu, goûté et
c'est le parfum du Maroc.
Voilà, exactement.
Hein, cette menthe marocaine.
Très évocatrice.
Très évocatrice, absolument. J'ai envie de vous coller, c'est l'été, je suis joueur. Pourquoi, à votre avis, on soulève la théière ? Pourquoi on soulève le bec verseur au-dessus du verre, comme ça, en montant et en descendant ? Alors évidemment, il y a l'idée d'oxygéner le thé.
Ouais.
Mais il y a une autre raison, vous ne savez pas ?
Nous ne savons pas, je le crains.
Vous donnez votre langue au chat ?
Oui.
Vous avez très envie de savoir ?
Oui.
La réponse de Fateh Mahal, chef du restaurant marocain Mansouria dans le 11e arrondissement de Paris.
Alors, le fameux geste, il y a deux possibilités. On dit que finalement, on part très très loin avec la théière et on fait ce geste très élégant et très haut pour aérer le thé. Mais une autre version parle de la marque, parce que la plupart des théières venaient de Manchester. Comme d'ailleurs toute l'argenterie pour les nobles marocains. Manchester travaillait beaucoup pour le Maroc. Et c'était en fait, quelque part, pour montrer la marque de la théière. C'est fort possible parce que à Fès, où la bourgeoisie, l'aristocratie marocaine, n'a pas cette habitude de faire des nouveaux riches. Et donc, à Fès, on ne monte jamais la théière très haut.
Incroyable, hein ? On montrait la marque de sa théière. On a souvent l'argument, c'est une hypothèse. Je sais pas si c'est vrai, mais c'est rigolo.
Un geste de nouveau riche.
C'est un geste de nouveau riche, c'est exactement ça. Xavier Mathias, dans la grande famille des menthes, on associe souvent d'autres espèces végétales au nom menthe. On parlait avec Claire Poirier de la menthe bergamote, mais on a déjà entendu parler au travers de nos lectures ou de nos pérégrinations culinaires de la menthe chocolat, de la menthe banane, de la menthe ananas. À quoi correspondent tous ces noms ?
Alors, ils correspondent à des similitudes hein, de parfums, pas forcément du tout à des réalités botaniques. Alors, c'est spectaculaire. Ça peut aussi, par contre, être décevant. Dans le sens où ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'une menthe, en fonction de l'heure qu'il est, de l'ensoleillement, etc.,
eh ben,
elle peut vraiment changer de parfum. Donc, il y a des menthes comme ça qui peuvent être décevantes. La menthe pomme, la menthe fraise, la menthe banane.
Vous l'avez, la menthe banane, je crois.
Voilà. Voilà, et parfois ça peut être absolument...
Pourquoi elle est décevante, la menthe banane ?
Mais non, mais parce que c'est spectaculaire. Parfois, il y a vraiment ce parfum banane écrasée, banane oubliée dans le cartable, qui est vraiment, vraiment étonnant. Et parfois, on l'a beaucoup moins. Pareil sur la menthe fraise, parfois, c'est vraiment un parfum Haribo, quoi, presque.
C'est ça.
Et parfois, ben, on l'a beaucoup moins.
Et la menthe chocolat, vous l'avez ?
Alors, menthe chocolat, oui.
Et oui, c'est vrai qu'elle existe.
Ah bah oui,
là,
pour ces menthes After Eight, pour ceux qui aiment...
C'est ce qu'on appelle aussi l'After Eight, sans vouloir citer de marque de confiserie anglaise.
Et donc, c'est une...
En nom populaire.
Voilà, on va dire
comme ça
en
dans
nom
le
populaire.
Milieu.
C'est vraiment une des pipiritas les plus qui claque le
incroyable.
Plus. Quoi.
C'est vraiment
elle a presque la couleur du chocolat, parce qu'elle est carrément... elle a des tiges un peu rougeâtres, un peu sombres.
Alors ça, c'est caractéristique des pipiritas. Hein. Vous allez vraiment les identifier à ça. Alors il y a ce côté, effectivement, je suis désolé de citer une marque, mais oui, il y a ce côté After Eight hein, dedans qui est tout à fait étonnant. Alors ça, c'est vraiment... Mais quand on dit qu'il y a différents usages aux menthes, voilà, ça c'est la menthe des desserts, c'est la menthe. Des mousses au chocolat, c'est où on peut mettre une feuille aussi pour décorer. Bon, pas oublier le rôle très ornemental hein, des menthes hein, dans les préparations, avec ce côté extrêmement percutant hein, quand même, hein, dès qu'on y touche.
La menthe chocolat.
Voilà, la menthe chocolat. Après, vous avez alors, des menthes qui sont étonnantes, qui ne sont pas forcément d'ailleurs des menthes botaniquement. Vous avez le piquenante, la menthe pileuse des montagnes. Désolé, je vais encore citer une marque, mais il y a un côté vraiment Rickless dedans, oui. Qui est tout à fait curieux. Mm-hmm. On a aussi les menthes... la menthe coque, qui est un tanacétum.
Même si là, c'est une fausse menthe. Hein.
C'est une fausse menthe. Et là, on est clairement sur le parfum Hollywood Chewing Gum. Quoi. C'est tout à fait spectaculaire.
Vous nous avez tendu, Claire Poirier, une feuille très grande. Il ne s'agit quand même pas de menthe.
Oui, ça ressemble à une plume. Alors, c'est ce qu'on appelle la menthe coque.
Elle fait à peu près 15 cm de haut.
Mais c'est de la famille de la tanaisie, donc on est dans un univers qui est très différent. Ça sent l'Hollywood Chewing Gum. Par contre, ça n'a pas ce goût-là. Alors, par chez nous...
Là, on a carrément là, c'est fraîcheur de vivre. Hein.
Par chez nous, les anciens appellent ça la chartreuse, parce qu'ils font une liqueur avec. Ouais. Alors, ça n'a rien à voir avec la chartreuse des montagnes, hein, puisqu'on parle de la chartreuse bretonne. Hein. Mais par contre, comme la tanaisie, on va faire des liqueurs avec assez volontiers, en usage direct. C'est quand même bien plus intéressant de manger de la vraie menthe que de manger de la menthe coque.
Dans un instant, Claire Poirier nous apprend, figurez-vous, à faire de délicieux sablés mentholés, pas avec les feuilles de menthe, mais avec de l'huile essentielle. Oui, c'est possible de cuisiner de l'huile essentielle bio de menthe, mais tout de suite, on a envie d'un petit cheesecake. À quoi ? À la menthe.
Sur France Inter, on va déguster.
Il est beau, votre cheesecake.
Ben merci, parce que ça n'a pas été une mince affaire.
Je me sers tout de suite d'ailleurs.
Autant j'aime froisser les feuilles de menthe et respirer le parfum ainsi dégagé, autant j'aime effectivement les utilisations dont on parle depuis le début d'émission, à savoir en infusion, en sirop. Mm-hmm. Autant la menthe en cuisson, c'est toujours quelque chose que j'ai trouvé un peu déroutant.
Oui.
Et donc j'ai essayé de m'atteler à ce challenge, aidé par un livre paru il y a quelques semaines qui s'appelle « Les cheesecakes du jardin » aux éditions Terre Vivante. Alors les éditions Terre Vivante que Xavier Mathias connaît bien, c'était un petit clin d'œil aussi, puisque c'est un éditeur spécialisé dans le bio qui fait beaucoup de jardinage et une très belle collection en cuisine très axée sur le bio et le végétarien. Et donc dans « Les cheesecakes du jardin », il y a 40 recettes aux fruits, légumes et fleurs de saison.
C'est une bonne idée.
C'est une très bonne idée. Certaines recettes d'ailleurs sont sans lactose, avec des fromages et des laits végétaux. Mais là, je vous ai pris une recette on ne peut plus classique de cheesecake qui s'appelle donc le cherry mint, donc avec à base de cerises et de menthe. Mmh. Donc le cheesecake, comme vous le savez tous, il y a une base biscuitée et au-dessus un appareil en fait, un appareil à base donc de fromage qui va cuire. Pour la base biscuitée, il s'agit de 150 g de biscuits sablés nature,
oui,
qui vont être écrasés. Alors le petit truc, vous mettez ça dans un sachet congélation zippé, mm-hmm, et vous passez un rouleau à pâtisserie par-dessus, ça vous permet d'écraser vos sablés sans en mettre partout. Là, vous mélangez ça avec 65 g de purée d'amandes. Mm-hmm. Vous tassez au fond d'un moule. Alors j'ai la chance d'avoir un moule à charnière, sinon vous mettez du papier sulfurisé pour pouvoir le démouler. Là, ce qu'elle conseille, c'est de faire cuire en fait très légèrement quelques minutes pendant que votre four préchauffe à 150 degrés. Et pour l'appareil, en fait, une poignée de feuilles de menthe.
Et ben voilà.
Qu'elle va mixer en fait avec un petit peu de fromage blanc. Mm-hmm. Donc on obtient, alors là c'est assez impressionnant, on obtient une vraie couleur verte, ce qui n'est pas le cas ensuite après cuisson, mais accru quand vous mixez vraiment la poignée de feuilles de menthe avec le fromage blanc, vous obtenez une pâte verte, que vous allez mélanger avec 400 g de fromage blanc, 250 g de ricotta, 120 g de sucre en poudre, 3 œufs. Mmh. On ajoute 200 g de cerises dénoyautées coupées en morceaux. On verse l'appareil sur le fond et on fait cuire. Alors, il était indiqué 40 minutes. Moi, j'avoue, j'ai prolongé parce qu'au bout de 40 minutes, c'était encore un peu trop tremblotant. Et ensuite, l'astuce pour réussir à obtenir un cheesecake qui ne soit pas complètement craquelé en surface, c'est de le laisser refroidir dans le four tranquillement.
Ah.
Et donc, une fois qu'il est froid dans le four, on le met au frigidaire. Et là, comme ça, on obtient cette texture un peu gélifiée qui peut rappeler aussi la fiadone, sauf que là, il n'y a pas du tout de farine.
Et là, vous évoquez le fiadone, le fameux gâteau au corse à base de brochou.
Exactement. Et donc là, on obtient, je trouve, un goût très fromagé. Et la menthe, finalement, est assez discrète. Donc c'est ce qu'on disait, la menthe en cuisson.
Mais elle est là. C'est-à-dire que je ne sais pas si on l'aurait identifié sans le savoir, mais en tout cas, il y a une trame fraîche. Ouais. Et puis je trouve que l'association avec la cerise est tout à fait intéressante.
Alors, il n'était pas précisé quel type de menthe utiliser. J'ai fait un mélange, en fait, de menthe verte et de menthe poivrée. J'ai fait à peu près moitié-moitié en me disant, je ne sais pas, on va tester.
Très bonne idée.
Et c'était de la menthe sèche ou de la menthe fraîche ?
Fraîche. D'accord. J'ai utilisé de la fraîche, effectivement, que j'ai sur le balcon.
Vous nous rappelez les références, Déborah, de ce livre ?
Donc l'ouvrage « Cheesecake du jardin » de Virginie Kéan, édition Terre Vivante, pour la modique somme de 14 euros.
Et la recette du cheesecake à la menthe et aux cerises sur franceinter.fr à la page On va déguster. La menthe d'ailleurs marche très bien globalement avec les fruits rouges, avec les fraises.
Avec le melon.
Avec le melon,
avec
c'est
le
vrai.
Concombre.
Avec le concombre, bien
les
sûr.
Les petits pois.
Le fameux tzatziki.
Exactement.
Hein, un bon yaourt de brebis, du citron, un peu de menthe ciselée avec du concombre râpé ou du concombre en fine lamelle, ça marche très très bien et même les enfants adorent cette salade. Vous évoquiez les fruits,
les petits pois,
les légumes verts et ça marche avec les haricots, les manchetous, les petits pois. C'est vrai que la menthe, on peut vraiment l'associer en salé avec quantité de choses. Comment, en un mot, vous évoquiez le séchage de la menthe ? Évidemment, Claire Poirier, vous en êtes la spécialiste avec votre mari Adrien, puisque vous faites des infusions gastronomiques à la menthe verte en Bretagne. Vous avez des séchoirs professionnels, mais si on est à la maison ?
Alors déjà, il y a une étape, c'est la récolte.
Oui.
Pour que le séchage soit qualitatif, il faut que la récolte soit faite au bon moment.
Mm-hmm.
Il y a des débats, mais notre arbitrage est après de nombreux tests. Ce qui est important pour la récolte de la menthe, c'est de récolter avant qu'il fasse trop chaud, puisque les stomates de la plante vont se fermer au soleil pour éviter l'évaporation. Donc on va avoir un séchage qui va être moins efficace quand la plante a pris un coup de chaud. Donc on va plutôt récolter la plante le matin. On va récolter les parties aériennes, donc ça veut dire tout ce qui est au-dessus de la racine.
Mm-hmm.
Et on va suspendre les bouquets, donc ça c'est en séchage familial, nous on sèche dans un séchoir professionnel,
bien
mais
sûr.
En séchage familial on va plutôt faire un bouquet et les suspendre tête en bas dans une pièce qui est à l'abri de la lumière, ça c'est très important, et une pièce fraîche. C'est-à-dire l'exposition à la chaleur va libérer une partie des menthols. Et j'avais une dame qui me disait sur un marché, ça sent bon dans ma véranda et après ça sent plus rien dans ma tasse.
Et ben voilà.
C'est exactement ça.
Pièce fraîche, quelle température ?
Moins de 40 degrés. Nous, le séchage, pour respecter au mieux la menthe, c'est moins de 36.
Ah oui, donc 30, c'est pas frais non plus.
Voilà.
Non, mais je pensais que vous alliez dire dans la cave à 12 ou 19 degrés.
Non, mais je veux dire dans une pièce à température ambiante classique, autour de 20 degrés, c'est parfait.
D'accord.
Et par contre, à l'abri de la lumière pour qu'elle garde sa couleur verte, ça c'est important.
Courant d'air ou pas ?
Dans l'idéal, ouais, plus l'air circule, plus le séchage va être efficace. Et après, si vous avez un calendrier lunaire du jardinier, nous, on s'intéresse quand même énormément à la biodynamie et donc ne pas récolter en jour-feuille. Puisque c'est le moment où l'énergie, la plante a toute son énergie dans ses feuilles et donc on va avoir un séchage qui est plus difficile. Plutôt récolter en jour-racine ou en jour-fruit.
On consultera les cycles lunaires, c'est promis, avant de récolter notre menthe. Juste vraiment, on a une poignée de secondes. C'est les grandes étapes. Les auditeurs pourront retrouver la recette, évidemment, sur franceinter.fr à la page On va déguster. Vous nous avez préparé de délicieux sablés à l'huile essentielle de menthe poivrée. Le principe en un mot.
Oui, alors ce qui est important de se dire, c'est que effectivement le menthol ne supporte pas bien la cuisson. Si on veut avoir un côté puissant menthe, vraiment effet waouh avec cuisson, l'idéal c'est d'utiliser l'huile essentielle.
Ah oui, effet waouh là.
Alors là, l'huile essentielle, c'est l'huile essentielle de menthe poivrée qui vient de chez Avelaine, c'est des voisins à nous. C'est très importé, regardez, il y a plein de producteurs en France, donc essayez de trouver une huile essentielle à côté de chez vous. J'ai triché, parce que vous voyez, les sablés sont verts, mais le vert n'est pas le vert de la feuille de menthe, puisque comme le disait Déborah,
mais du colorant
la
spiruline. Naturel.
J'ai utilisé la spiruline.
La
spiruline qui va conserver son vert à la cuisson et qui va donner au sablé un effet menthe, vert.
Délicieux.
Et
ils sont sidérants, c'est très bon.
Voilà, donc 10 gouttes d'huile essentielle. L'huile essentielle en cuisson, on va la dissoudre dans du gras. Et puis ensuite, on va faire sa recette de sablé traditionnel.
Les ingrédients en un mot, il y a des jaunes d'œufs.
Il y a des œufs, du sucre, du beurre, de la farine. Et
un peu de levure.
Et un peu de levure, et voilà.
Et 10 gouttes d'huile essentielle, un peu de spiruline en paillettes pour la couleur.
Oh là là, incroyable. Réduite en poudre quand même pour avoir un côté un peu homogène.
On va se jeter sur la recette précise, c'est incroyable. Hein. Effet waouh, effectivement, très mentholé en bouche, c'est bien.
On a l'impression de croquer un bonbon à la menthe.
C'est vraiment génial. Et puis j'ai appris un nouveau mot pour décrire une plante, c'est l'effet waouh. Mais vraiment, effectivement.
Et l'effet waouh, on va continuer. Continuez à le partager ensemble avec les nombreuses potées de menthe que nous a apporté Xavier Mathias. Vraiment, en un mot, si vous êtes en Ille-et-Vilaine, allez faire un tour à l'Amande Verte, un petit Éden aromatique. Il y a des brunchs, des goûters. Vous vouliez citer un livre ?
Ouais, je voulais citer le livre de Bernard Bertrand. J'ai appris beaucoup de choses dedans. C'est dans sa collection du Compagnon Végétal. C'est vraiment une bible sur la menthe. Il y a tout, tout, tout. Donc n'hésitez pas aux éditions de Terran. C'est un ancien ouvrage, mais c'est extrêmement qualitatif.
Ouvrage de référence à retrouver sur le web. Xavier Mathias, un grand merci. remercie pour nous avoir apporté vos lumières sur la menthe. Prochain thème, qu'est-ce qu'on traite de quoi? On va déguster de ce qu'il y a de végétal.
Encore un foutoir à traiter.
Vous nous glisserez quelques idées.
Oui, c'est ça.
Une grande famille de légumes. Voilà. La semaine prochaine, une nouvelle émission d'été entièrement dédiée aux petits fruits rouges et noirs. Myrtilles, framboises, groseilles et beaucoup plus y affinité. Elvira, vous serez d'ailleurs dans ce fauteuil dimanche prochain
avec
notre chroniqueur vin, Jérôme Gagnaise. Merci les amis. Bel été à l'écoute de France Inter. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.